Et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Une excellente année à vous, chers auditeurs. Alors, comment s'annonce-t-elle cette année 2019? Que sait-on? Rien, bien sûr. Ou alors pas grand-chose. Je ne vous apprends pas que les économistes sont les meilleurs pour expliquer a posteriori pourquoi ils se sont encore une fois trompés dans leurs prévisions. Vous allez me dire, c'est un peu court. On pourrait quand même jeter un petit œil dans la boule de cristal. Alors on y va, 2019, colonne des bonnes nouvelles, on nous annonce que ce devrait être l'année du pouvoir d'achat. Colonne des mauvaises nouvelles, il y a le ralentissement de la croissance, la guerre commerciale, Chine-États-Unis. Oui, c'est vrai, les nuages s'accumulent. Et enfin, dans la colonne, je ne sais vraiment pas ce que ça va donner en 2019, mettons deux énormes points d'interrogation. Un, le Brexit, notre incroyable divorce prévu dans 3 mois, vraiment. Et deux, les gilets jaunes. La trêve de Noël n'était-elle qu'une pause, justement? Quel chemin, désormais, prendra cette colère qui vient de loin? Voilà, c'est notre terrain de jeu économique et social pour 2019. La partie ne fait que commencer. Alors faites comme d'habitude, le samedi matin à 9h, restez avec nous. On n'arrête pas l'écho, mais on ne va rien lâcher.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Il ne lâche rien, c'est Coy Nguyen, le réalisateur, Valentin Pérez, l'attaché de production, et Juliette Delperroux qui nous accompagne à la technique ce matin. Les débatteurs sont là ce samedi 5 janvier, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Ça commence mal.
Emmanuel Le Chypre, je m'applique là, Le Chypre, ah non laissez-moi finir, Le Chypreux de BFM Business, bonjour à vous et bonne
bonjour
année.
Bonjour à tous, bonjour. Bonne année.
Bonne année.
Alors est-ce que vous avez des boules de cristal qui fonctionnent vous, Emmanuel?
On peut les faire fonctionner, mais c'est vrai qu'a posteriori, on se dit il y a des années sans enjeux. Ça devait être un peu le cas de 2018, hein, parce qu'il n'y avait pas de grandes élections, par exemple, dans le monde. C'était tranquille. Et puis, par contre, 2019, oui, c'est une année qui s'annonce pleine de grands rendez-vous avec la croissance, avec les marchés financiers, avec les électeurs européens, avec nos amis britanniques, avec Monsieur Trump et Monsieur Xi Jinping sur la guerre commerciale. Bref, ça va faire beaucoup, beaucoup d'événements à commenter.
Christian?
Ouais, moi, j'ai mis un petit thermomètre sur mon bureau parce que j'ai les températures à surveiller, la température mondiale, parce que ça continue à se réchauffer et nos grands dirigeants mondiaux font rien. Et là, ça commence à devenir assez dangereux. Le thermomètre pour la température française, au-delà des gilets jaunes, est-ce qu'on va réussir à réduire les fractures? Les gilets jaunes nous ont simplement révélé qu'il y avait des fractures en termes de revenus, territoriales, etc. Est-ce qu'on va réussir à résoudre ça? Le gouvernement nous a quand même prévu un grand débat national. J'espère qu'on va vraiment mettre tout à plat.
Avec des réformes qui continueraient,
mais pour remettre vraiment... Non, mais pas les réformes du gouvernement, celles qui, dont on aura besoin pour réduire... Nos fractures, tout à fait. Et puis le thermomètre européen, parce qu'on va quand même avoir des élections. Est-ce que les progressistes européens vont être capables de réenchanter l'Europe, qui honnêtement aujourd'hui ne va pas très très bien?
Alors ce matin, écoutez, on ne va pas regarder seulement le futur, on veut tout savoir sur le passé pour penser notre présent. L'euro, notre monnaie à 20 ans. Chers débatteurs, rendez-vous dans une poignée de secondes. Au menu également, également et toujours, les gilets jaunes, un défi à la démocratie, politique, mais aussi sociale. Dans le Mag'Écho ce matin, du reportage. Et un invité, c'est le nouveau patron de Force Ouvrière, Yves Verrier. Il sera dans ce studio vers 9h45. Avec vous, Sandrine Foulon, l'année est toujours bonne. Bonjour.
Bonjour, Alexandra.
On n'a pas arrêté le courrier pendant les fêtes. Et justement, ce matin, vous répondez à la question d'Antonin.
Oui, alors Antonin s'interroge sur le nouveau régime d'heures supplémentaires, défiscalisé et désocialisé. Ces heures sup compteront-elles bien pour le calcul des retraites et des allocations chômage?
La réponse, ça sera juste avant 10h, à tout à l'heure, Sandrine. Tout de suite, 9h16 sur France Inter, l'euro, 20 ans, aucune célébration particulière. La monnaie européenne, elle est entrée dans les mœurs, c'est peut-être son plus grand succès. Et pour le reste, ça se débat.
France Inter.
Dis papy, le franc français, c'était quand? C'était il y a longtemps? Et ça valait combien, un euro? Dans 20 ans, voilà le genre de questions auxquelles il nous faudra répondre et on sera obligé d'expliquer qu'un certain 31 décembre 1998, 11 pays membres de l'Union européenne ont engendré l'euro. Ça se passait à Bruxelles, en Belgique, où le président européen de l'époque, un certain Jacques Santer, avait aux alentours de 13h dévoilé le tableau des parités définitives entre les vieilles monnaies européennes.
Monsieur le Président, je demanderai maintenant à Monsieur Yves de Sehugui et à moi-même de pouvoir dévoiler les taux de conversion que nous avons adoptés ce matin.
Et sur ce tableau, ce midi à Bruxelles, il était écrit qu'un euro égalait 6 francs 55 957. c'est définitif et ça ne bougera jamais plus. Et c'est là qu'on voit ceux qui sont forts en calcul mental. La baguette à 4,20 francs, combien vaudra-t-elle en euros? Et les 4 yaourts à 8 francs, le petit noir à 5,50 francs aux zincs du café du coin, le paquet de lessive à 70 francs et le maxi best-of Big Mac à 35 francs. Pierre Billot s'est bien amusé cet après-midi, il est allé chez un marchand de fruits et légumes à Paris.
Ah, ça sera moins cher en euros, mesdames, un petit coup d'œil!
Le kilo de clémentine est à combien?
9,95.
Et en euros, madame, ça fait quoi?
Ça fait trop!
Bah, je sais qu'il faut diviser par la moitié, ajouter 10, je sais pas quoi, enfin, je sais pas.
59 francs divisé par 6,59, ou divisé, oui, c'est ça?
En euros, ça fait combien?
Oh ben Dieu! Alors là, c'est en l'an 2000, hein?
Ah, mon pauvre ami, alors là, 6,55, 700, je sais pas quoi.
Multiplié par 6.
Multiplié? Non, divisé.
Moi, j'aime beaucoup avoir de l'argent dans ma poche, moi. Alors, je multiplie tout par 6, comme ça, je suis cognant. Marcel, t'as les pommes de terre?
Voilà, voilà.
Alors, grâce à la petite calculette convertisseur que la direction de France Inter, dans sa grande mensuétude, nous a offert pour Noël, merci patron, je suis en mesure de vous dire qu'une baguette va coûter 0,64 euros. Il paraît qu'on va dire 64 centimes pour rester un petit peu français. Un paquet de lessive de 5 kilos, 10,67 euros, donc. Un café au comptoir, 83 centimes. Un maxi Best of Big Mac, puisqu'on en parlait tout à l'heure, 5,34 euros. Toute l'après-midi, nous avons cherché une martingale, un truc, une astuce qui permettrait de calculer ça de tête et rapidement sans machine. Je peux vous dire que pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux que la calculette.
Elle est belle cette archive, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était le journal de 19h du 31 décembre 1998, présenté par Christophe Ondelat. Le reportage était de ce formidable Pierre Billot. Christian Chavagneux, Emmanuel Lechypre, ça fait du bien d'entendre les prix de l'époque, hein, ça surprend. Le Big Mac, 35 francs, le paquet de lessive, 70 francs. Et Emmanuel, vous en souvenez-vous du tableau des parités quand il avait été dévoilé?
Oui, je m'en rappelle
ce
très, très bien.
31 décembre 1998.
Oui, parce que moi j'étais déjà journaliste à l'époque et donc on écrivait déjà sur l'euro, donc on suivait effectivement le tableau des parités, puis on a suivi tout le lancement de l'euro, puis on a surtout suivi ce qu'on disait à l'époque sur ce que l'euro allait produire. Alors pour l'émission, je me suis replongé dans ce qu'on nous promettait. Et dans ce qu'on nous promettait, alors on nous promettait moins d'inflation d'abord, on nous disait il y aura effectivement des prix qui seront mieux maîtrisés parce qu'on aura une monnaie plus forte, on aura des taux d'intérêt plus bas parce qu'on aura plus de visibilité, nos pays seront mieux gérés et donc il y aura moins de volatilité sur les taux d'intérêt, il y aura plus de dévaluation, on pourra circuler librement, donc ce sera bon pour les entreprises et pour les citoyens. Et puis on nous disait surtout deux choses, on nous disait avec cette libre circulation des hommes, des capitaux, des marchandises et la monnaie unique, on va aller vers une homogénéisation finalement des pays de la zone euro. C'est-à-dire que les performances de ces pays vont converger.
On va faire zone en fait.
Voilà, on va faire zone.
Pas nation, mais zone.
Au niveau de vie les plus bas vont rattraper les niveaux de vie un peu les plus hauts. Et puis, on disait surtout que l'euro allait être un formidable aiguillon pour les réformes qu'on essaye encore de faire aujourd'hui et qu'on n'a pas vraiment fait à l'époque. Parce qu'on se disait, regardez, un pays, finalement, il aura plus sa monnaie. Elle ne sera pas décidée par lui-même. Ses taux d'intérêt à court terme ne seront pas décidés par lui-même. Donc le juge de paix formidable, ce sera les taux d'intérêt à long terme, ce sera les marchés financiers. Et dès qu'un pays sera mal géré, eh bien il sera lourdement sanctionné par les marchés financiers qui augmenteront les taux d'intérêt. Et moi je me rappelle avoir écrit cette phrase qui était de dire l'euro ce sera un aiguillon dans le dos de tous les États pour faire la réforme. Voilà ce qu'on écrivait. Vous voulez pas qu'on fasse le bilan après? On reviendra sur le bilan après. Voilà ce qu'on écrivait.
Regardez, je suis en train de noter tout ce que vous écriviez comme bêtises, hein, on va le dire, à l'époque, et on va demander à Christian.
Ouais, moi j'étais journaliste depuis quelques mois et donc j'ai retrouvé Naissance d'une monnaie, mais qui va vraiment gérer l'euro? C'était pas vraiment à la macro,
c'est un alternative économique
de janvier 99. Donc j'avais 6 pages, produit 6 pages, un premier papier court de 2 pages sur les conditions techniques, le 31 décembre, le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Puis un deuxième papier plus long qui était le cœur du dossier sur, avec la création de la Banque Centrale Européenne, on voit, Emmanuel était à l'expansion à l'époque, hein. Il fait de la pure macro, nous on faisait de l'économie politique. Avec la création de la Banque Centrale Européenne, qui va avoir le pouvoir de décider de la politique économique en Europe? C'était ça le sujet du dossier. La Banque Centrale Européenne n'avait pas tous les pouvoirs. J'étais content de voir que j'écrivais déjà à l'époque que notamment, elle contrôlait pas l'ensemble des banques, alors que si on avait une même zone monétaire, il fallait bien que les banques des différents pays fassent pas de bêtises, il fallait un contrôle européen des banques. Ça viendra qu'avec la crise de 2008. Bon, là j'étais content. Par contre, j'ai un long développement pour pour dire que les gouverneurs des banques centrales nationales allaient complètement manger la BCE et tirer la politique monétaire, chacun de son côté, que ce sera un bazar total, ça s'est pas produit. Par contre, je signalais déjà une insuffisance de coordination entre les États de l'Union européenne, entre eux, et entre les États et la Banque centrale européenne. Et ça, après la crise, ça a été magnifié entre une politique budgétaire très restrictive et une politique monétaire qui essayait de leur donner de la croissance. Voilà, c'était les idées de 99.
Les idées de 99. Alors, on va remettre le calendrier quand même peut-être dans la tête des gens, parce que bon, nous avons un petit peu de bouteille, mais il y a des gens plus jeunes qui nous écoutent. Donc l'euro, le 1er janvier 99, c'est l'euro financier qui arrive. Ouais, hein, on est d'accord. C'est l'euro pour les marchés, pour les actions, les obligations. Et en fait, les gens n'ont eu des pièces et des billets en euros que 3 ans plus tard, en 2002. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, enfin, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi on a fait l'euro.
Alors, c'est très important parce que ça permet de comprendre aussi les imperfections actuelles. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à considérer l'euro, quand on l'analyse, comme un système dans lequel on se dit « Ah bah quand même, on n'a pas créé les outils de politique budgétaire pour compenser les écarts entre pays, pour quand il y a un pays qui a un problème à lui tout seul, comment on peut l'aider, etc. » Mais il faut bien se rappeler qu'à l'époque, l'euro était créé comme un levier pour obliger finalement les États européens à aller vers davantage d'intégration politique. Donc l'euro, ça n'était pas le bout du chemin, ça n'était pas l'aboutissement d'un processus d'intégration européenne, c'était au contraire le début d'un processus qu'on voulait effectivement enclencher en se disant si on a une monnaie unique, on ne pourra pas faire autrement que d'aller vers davantage d'intégration politique, qui était le but ultime. Et le problème, c'est qu'on s'est arrêté au milieu du gué.
Alors, en 99, on est 11 pays, aujourd'hui on est 19. Absolument. À faire l'euro. Christian, on a fait l'euro, là il va déjà loin Emmanuel, parce qu'il parle d'intégration politique. Bien sûr, c'est dans l'esprit des fondateurs, mais est-ce qu'au début, c'est pas juste, on en a marre de se faire des dévaluations compétitives qui nous ruinent nos économies?
Oui, bien sûr, on voulait...
Et qu'est-ce que ça veut dire, d'évaluation compétitive?
On voulait rapprocher les économies entre elles pour être sûr de peser tout simplement dans le poids dans l'économie mondiale. On voyait déjà la Chine qui commençait à monter, les États-Unis c'était le grand ennemi, et donc en face, il fallait que nous, on arrête de dire, bah, chaque fois que la France a plus d'inflation que l'Allemagne, pour récupérer de la compétitivité, on va dévaluer le franc par rapport au Deutsche Mark. C'était ça, les dévaluations compétitives pour regagner de la compétitivité. Donc on allait faire converger les économies pour avoir la même inflation, les mêmes déficits budgétaires, pour qu'on puisse gérer ça ensemble, et du coup créer une monnaie qui serait très forte au niveau mondial, qui allait concurrencer le dollar. C'était ça en fait les deux gros objectifs, mis à part la politique.
Alors, ce qu'on nous promettait à l'époque, vous avez fait tous les deux votre petite liste, ce qu'on nous promettait, c'était justement l'inflation qui serait maîtrisée. Et l'inflation, c'est un gros sujet pour les Français, pour particulièrement ce sentiment que l'euro a fait bondir les prix. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça fait du bien d'entendre des prix en francs pour ceux qui se souviennent. Est-ce qu'on peut faire le point? Est-ce qu'on peut dire l'euro a fait, ou hier sur France Inter, Benoît Cœuré disait encore que non, l'euro n'a pas fait bondir les prix. Où est-ce qu'on en est là-dessus?
Alors on peut regarder beaucoup d'indicateurs. Hein. Si vous prenez par exemple l'inflation, que vous regardez grosso modo comment elle était les 15 années qui ont précédé le lancement de l'euro, c'est-à-dire grosso modo entre 86 et 2001, on est à 2,1% d'inflation par an. Après 2001, sur les 15 années qui suivent, donc quasiment jusqu'à aujourd'hui, on est plutôt à 1,4%. Si vous prenez tous les produits alimentaires, etc., on est sur des augmentations qui sont encore plus faibles sur la période qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu effectivement un effet d'abord lié aux effets, ce qu'on appelle les prix magiques, un effet purement commercial. C'est-à-dire que quand vous passez à 19,99 €, vous voyez, bon, il y a eu, c'était pas la même chose en francs. Il a fallu reconstituer des prix magiques. Et ça, l'INSEE nous dit, par exemple, que ça a joué à hauteur de 0,3 points, par exemple, sur le prix du café. Et puis, il y a eu une hypersensibilité aussi. Il y a eu un coût, hein, pour le passage à l'euro pour les commerçants qui l'ont en partie répercuté. Et c'est vrai qu'il y a eu un impact sur beaucoup de produits qui coûte très peu cher, mais qu'on consomme régulièrement. La baguette, le café. Donc, il y a eu une hypersensibilité sur ces sujets-là, mais ça masquait les prix qui ont été maîtrisés ou qui ont baissé dans beaucoup d'autres secteurs.
Christian. Oui, mais en même temps, les banques centrales avaient déjà pris comme objectif prioritaire de lutter contre l'inflation bien avant la création de la zone euro. Le fait que l'euro allait arriver a forcé les gouvernements à appuyer un petit peu plus sur le sujet, mais la baisse de l'inflation, on l'avait déjà avant l'euro. Donc, ce n'est pas l'euro qui a vraiment changé les choses en matière de contrôle des prix.
Alors, il faut quand même dire quelque chose, Emmanuel, qui est que le problème en économie, c'est que vous n'avez pas deux mondes parallèles. Donc, on ne peut pas dire.
On peut pas savoir. On peut pas savoir. Voilà.
Sur des données, par exemple, comme le chômage, la croissance, et même l'inflation, on ne peut que constater ce qui s'est passé et de dire que l'inflation a été plus faible. Mais isoler le phénomène euro est extrêmement compliqué.
Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'en donnant la priorité à l'inflation, on n'a pas donné la priorité à la croissance et à l'emploi, on n'a pas donné la priorité à la stabilité financière. De fait, ça s'est retrouvé. Ce que disait Emmanuel tout à l'heure est juste. Les taux d'intérêt auxquels les différents États de la zone euro ont pu emprunter, moi j'ai regardé le graphique, vous regardez avant 98, 99, il y avait des écarts énormes. Et puis vous voyez tous les États, tous les taux d'intérêt qui sont, ça devient un gros spaghetti, quoi. Tout le monde, de la Grèce à l'Allemagne, emprunte à des taux d'intérêt quasiment le même et très faible, ce qui était une erreur énorme des marchés financiers. La Grèce, c'est pas l'Allemagne, on l'a vu après. L'Italie, c'est pas l'Allemagne. Pouvoir emprunter à des taux d'intérêt aussi faibles pour des pays qui étaient aussi faibles, c'était une erreur d'appréciation du risque des marchés financiers.
Mais c'est là aussi où
dû à l'euro.
Oui, mais c'est là aussi il faut distinguer deux choses. C'est que en fait, quand on fait le bilan des choses qui se sont pas passées comme prévu, c'est vrai que quand on nous avait dit ça va faire une convergence des performances économiques entre les pays de la zone euro, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Au contraire, ces performances se sont
ça c'est
ces
un
écarts,
gros point noir. Si on fait le bilan, c'est le gros point noir.
Voilà, mais ça c'est une erreur de conception d'avoir cru ça. C'est-à-dire en gros, la théorie économique vous dit bien que quand vous libérez les capitaux, les hommes, les marchandises, etc., bah chacun a tendance à se spécialiser dans ce pour quoi il est le plus fort. C'est pour ça que l'industrie est allée vers les pays du Nord et notamment vers l'Allemagne. Voilà. Mais il y a eu aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut distinguer les erreurs de conception de l'euro et les erreurs de gestion de l'euro. Il y a des choses qu'on reproche à l'euro qui ne relèvent pas de son architecture, mais qui relèvent de la mauvaise gestion qui en a été faite. Après, effectivement, donc dans ce qui n'a pas fonctionné comme prévu, il y a cette idée que il y a pas d'homogénéisation des performances. Et puis les marchés, c'est pas la faute. La théorie économique nous dit qu'effectivement, un pays dont les déficits publics augmentent aurait dû voir ses taux d'intérêt augmenter. Le problème, c'est que l'euro a été fait à un moment où, pour les marchés financiers, avec l'innovation financière, eh bien, il n'y avait plus de notion de risque et qu'effectivement, jusqu'en 2007, la Grèce empruntait quasiment au même taux que l'Allemagne, ce qui était une absurdité. Mais ça, c'est les marchés financiers qui n'ont pas joué leur rôle. C'est pas les architectes de l'euro.
Donc, vous nous dites que l'euro, on nous promettait beaucoup de choses, on nous promettait une bonne gestion, on nous promettait qu'on allait faire une zone avec assez égal, en fait, avec des économies qui convergeaient. On nous promettait une zone de solidarité. On voit bien que là, c'est une zone de concurrence. Christian, vous dites quoi? On ne sait pas si on aurait été mieux sans l'euro, mais...
Je dis en tout cas, le bilan, pas de convergence des richesses. Ouais. Les écarts entre le plus petit pays du PIB par habitant et le plus haut PIB par habitant est plus élevé après la zone euro qu'avant. Pas de convergence sociale. Au contraire, concurrence sociale avec les travailleurs détachés. Pas de solidarité fiscale. Concurrence fiscale au sein de la zone euro. On est quand même les premiers fournisseurs de paradis fiscaux au monde. Et puis l'euro n'a pas mis fin à la suprématie du dollar. Au contraire, depuis 2008, le dollar a pris encore plus de poids que par rapport à l'euro.
Alors, il nous reste 3 minutes. Moi, je voudrais vraiment que vous nous donniez votre vision sur ce qu'il faudrait corriger dans cette zone euro. Qu'est-ce qui pourrait nous faire aller mieux, Emmanuel Le Chypre?
Le constat, il est simple. L'euro ne peut fonctionner que si on a davantage d'intégration, notamment sur le plan budgétaire, c'est-à-dire s'il y a plus de solidarité entre pays. S'il y a un pays, par exemple, qui subit un choc, qu'il est le seul à subir, il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent de l'aider. Donc ça, c'est quelque chose...
Et on l'a pas fait, ça, depuis la crise de 2008.
Plus de convergence fiscale, plus de convergence budgétaire, ça, c'est des choses dont on a absolument besoin. Donc le problème, il est simple aujourd'hui. C'est qu'en fait, on est au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on a quitté une rive, la rive des monnaies nationales, pour aller vers la rive de la monnaie unique. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous les outils pour que ça fonctionne correctement. Donc, on ne peut pas rester au milieu du gué. Donc, soit faut aller vers davantage d'intégration européenne, mais c'est vrai que la problématique aujourd'hui,
elle
c'est
est
que
politique.
Plus aucun pays ne veut abandonner davantage de souveraineté, et ça, c'est quand même un outil, un frein considérable, ou alors on sera obligé de revenir aux monnaies d'avant.
On sera obligé de revenir aux monnaies
nationales. On ne pourra pas rester au milieu du gué.
Mais ça peut fonctionner techniquement assez longtemps, finalement, cet euro. Pourquoi est-ce que vous voulez que...
C'est parce que ça fonctionne. C'est parce qu'on l'a vu avec la crise et après la crise que ça fonctionne plus du tout. Et on est au milieu du gué, mais il n'y a pas, l'arrivée est trop loin. Et personne veut construire le bateau ensemble parce qu'il y a bac ensemble qu'on peut le construire. Il faudrait une politique industrielle sur le numérique, sur l'écologie. Il faudrait un budget de solidarité quand il y a des pays qui ont des difficultés. Il faudrait pouvoir restructurer la dette. Dire un pays, vous avez des problèmes, et ben on va se mettre tous autour de la table. On va repousser le remboursement de votre dette. Personne ne le veut. Si on veut de la convergence économique, il faudrait, par exemple, décourager les pays qui ont des gros excédents, comme l'Allemagne. Vous croyez que l'Allemagne va accepter ça? Il faudrait réduire les inégalités. La proposition Piketty, Anne-Laure Delatte, etc. Un impôt commun et progressif sur le patrimoine et le revenu. Il faudrait de la convergence sociale. Qui veut tout ça aujourd'hui? On sait que c'est tout ça qu'il faudrait pour que la zone euro fonctionne. Qui le veut aujourd'hui dans les pays?
Personne ne veut abandonner de la souveraineté.
On n'a pas un seul leader européen qui a une vision européenne pour demain. C'est tous des petits égoïstes nationaux et c'est l'euro aujourd'hui et la somme des égoïsmes nationaux. Qui va décider de l'avenir? Les électeurs. Est-ce que ça va être le Brexit et Salvini? Est-ce que ça va être Pedro Sanchez et les socialistes progressistes en Espagne? Honnêtement, personne ne le sait. On aura une indication fin mai avec les élections européennes.
Mais c'est contre-intuitif ce que vous nous dites quand même. C'est-à-dire les électeurs, vous dites c'est des petits égoïsmes, mais les électeurs non plus ne veulent pas.
Il y a des électeurs qui veulent et qui...
Jamais les Européens n'ont autant plébiscité l'euro, soutenu l'euro.
Oui.
Si vous regardez les eurobaromètres de la
Commission, délégués de la souveraineté.
Jamais ils n'ont voulu autant. Non mais... Il faut quand même être conscient que ce qu'on nous avait promis, qui était cette zone, cette espèce de forteresse dans laquelle on allait être à l'abri des vents mauvais venus du reste du monde, eh ben ça n'a pas été du tout ça. Ça a même été une forteresse dans laquelle on s'est entre-dévoré nous-mêmes, parce qu'on s'est fait concurrence entre nous. Et c'est ça qui ne va pas. Et en profit, il faut quand même le dire, au grand profit de l'Allemagne. Hein. 1000 milliards de croissance supplémentaire grâce à une monnaie sous-évaluée. Donc l'Allemagne a en partie, en réalité, mangé la laine sur le dos de beaucoup des autres pays européens. Et c'est ça qu'il faut corriger aujourd'hui.
Donc le grand rendez-vous pour vous, c'est vraiment le rendez-vous des européennes?
Bah, va y avoir fin mai un rendez-vous très très important qui va décider de l'avenir de la zone euro. On est vraiment vraiment là sur le moment où il va falloir choisir entre soit on en reste là et la zone euro va exploser, soit on fait des progrès et personne ne veut faire des progrès au niveau des grands États. Donc à mon avis, la zone euro est mal partie.
La réalité, c'est que les institutions, elles sont extrêmement souples. La BCE, c'est un outil très moderne. Beaucoup plus moderne que la Banque centrale américaine, qui permet de résoudre des crises, etc. C'est un outil moderne. On peut faire beaucoup de choses.
Mais la souplesse ne suffit plus aujourd'hui.
Et donc la réalité, c'est que ça dépend des hommes. Voilà. Et que si on a des hommes qui ont le courage de vouloir imposer une vision, une trajectoire pour l'Europe, et ben voilà, ils le feront.
Mais de dépasser l'égoïsme.
Ça n'est pas les institutions qui nous bloquent ou qui vont nous préserver de dangers potentiels.
On referme pour l'instant ce dossier zone euro. On quitte la zone euro, on quitte ces 340 millions d'habitants pour aller dans un seul pays. Mais alors quel pays, hein? C'est le cinquième plus grand de la planète, 209 millions de Brésiliens.
Comandado pelo guru econômico de Bolsonaro, Paulo Guedes. O ministro deixou claro quais vão ser as prioridades. Reforma da Previdência, privatizações e simplificação de tributos.
E nos retrouvons Olivier Poujade, envoyé spécial au Brésil. Bonjour Olivier.
Bonjour Alexandra.
Le nouveau président Jair Bolsonaro vient donc de prendre les commandes de la première puissance latino-américaine. Les investisseurs applaudissent.
Ah oui, ils sont ravis, hein, mercredi au lendemain de l'investiture. L'Ibovespa, l'indice des marchés brésiliens, a franchi les 90 000 points pour la première fois de son histoire. Ils applaudissent un homme, en réalité. Paulo Guedes, sans doute la personne la plus influente, hein, du gouvernement. Bolsonaro lui doit une fière chandelle. C'est uniquement grâce à lui que les milieux financiers ont accepté de soutenir ce nouveau président d'extrême droite. Guedes est un ultralibéral. Il est à la tête d'un super ministère qui regroupe l'économie, la finance, la planification, le commerce et le développement. Et Paulo Guedes veut aller très très vite dans ses réformes.
Le slogan de Bolsonaro, c'est « remettre le Brésil debout ». En termes de politique économique et sociale, ça risque d'être brutal.
Oui, tenez-vous bien, il a promis d'annoncer une mesure tous les deux jours, dès le premier mois. L'objectif étant de lancer la machine avant la prise de fonction des députés et des sénateurs, hein, qui se fera en février. Guedes sait que les relations avec le Congrès seront assez délicates, donc il met les bouchées doubles dès le départ sur ce qu'il considère être les trois piliers de sa politique économique. Fiscalité, privatisation, une centaine d'entreprises d'État dès la première année. Mais le gros morceau, ce sera la réforme réforme des retraites. Il veut repousser l'âge de départ de 2 ans et il s'intéresse de très très près au montant des retraites des parlementaires et des juges. Ces gens-là touchent trop, dit-il. Le peuple ne touche pas assez. Tout est dit en résumé. Une grande partie des dépenses publiques était utilisée à des fins politiques, d'après lui. Le parti des travailleurs de l'ancien président Lula est évidemment visé. Désormais, cette politique ultralibérale n'aura qu'un seul but, si on en croit Guedes, servir le peuple brésilien.
Olivier Poujade avec nous depuis Rio de Janeiro. Merci à vous, merci à Gilles Gallinaro également pour les moyens techniques. Et merci aux débatteurs du samedi, Emmanuel Lechypre et Christian Chavagneux. Rendez-vous la semaine prochaine. Pour nous, à venir dans la prochaine demi-heure, c'est un leader syndical, Yves Verrier, le numéro 1 de Force Ouvrière. Les syndicats sont bousculés par les gilets jaunes, forcés de se repenser. Alors tout de suite, nous sortons du studio ce samedi. Acte 8, donc, des gilets jaunes. Plus d'un Français sur deux dit qu'il souhaite que le mouvement se poursuive. C'est un dernier sondage au Doxa Dentsu Consulting. Le mouvement est donc inédit. Il traduit une crise de la représentation, une crise de la médiation. De quelle couleur va s'écrire le futur des syndicats? C'est le reportage de Dila Tebi.
Moi et mes collègues, on est des agents de EDF ou de ses filiales. Et nous, on a décidé de réouvrir la boutique pour vous venir en aide.
Nous sommes à la Courneuve, en banlieue parisienne, avec une dizaine d'agents EDF et syndiqués à la CGT. Ils occupent ce qui était il y a encore un an une boutique EDF pour les usagers, méthode à l'ancienne pour protester contre la dématérialisation des services.
Donc, vous, votre prénom ?
Moi, c'est Nicolas Nogues.
Vous souhaitez consulter le solde de votre facture, transmettre vos relevés de compteur, ou vous avez besoin d'un justificatif de domicile ? Tapez 1.
Et voilà, maintenant on attend.
Alors c'est quoi l'enjeu pour vous d'ouvrir cette boutique EDF ?
L'accès pour tous au service public. Il faudrait que ça redevienne une boutique EDF parce que ici, on est dans le 93, on est dans un département où il y a beaucoup de précarité énergétique. Alors forcément, il y a des gens qui ne parlent pas très bien le français, qui ne savent pas le lire. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux pour les comprendre.
Donc ici, c'est comme les gilets jaunes là.
Bah, sauf que nous, c'est les gilets rouges. Voilà, parce que nous, on est la CGT. Moi, j'ai rien contre les gilets jaunes, bien au contraire. Ils ont raison de se soulever, etc. Et il n'y a pas de raison qu'on se batte pas. Ça fait des années qu'on se bat et on continuera de se battre. Si avec les gilets jaunes, s'ils veulent nous rejoindre, voilà, il n'y a pas de problème.
Cette agence, vous l'avez réouverte, cette boutique, depuis le 14.
Ouais, 14 novembre.
Et le mouvement des gilets jaunes, officiellement, il est parti sur le terrain le 17, 3 jours après.
Ouais.
Eux, ils ont eu pas mal de choses. Et vous ?
Rien du tout, nous. Après, concernant les gilets jaunes, forcément, ils ont obtenu plus. Mais en même temps, ils sont beaucoup plus nombreux sur des actions fortes et des actions qui font parler, puisqu'il y a de la casse, etc., etc. À croire qu'il faut casser pour être entendu. Nous, on va pas casser là où on est. On veut que ça reste ouvert.
Avec ce mouvement des gilets jaunes, est-ce qu'il y a un avant et un après pour le syndicalisme ? Ou alors c'est un épisode, c'est une parenthèse, les gilets jaunes ?
Ah non, ça peut pas être un épisode ou une parenthèse. Ça, c'est certain. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que nous, syndicalistes, on se pose les bonnes questions. Peut-être que les manifestations, faut continuer de les faire, mais faut peut-être y mettre un peu plus d'action. En même temps, les gilets jaunes, ils avaient une stratégie, c'était pas forcément de prévenir, c'était pas des manifestations prévues. C'est peut-être aussi ce qu'il faudrait qu'on fasse.
Avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, quelque part, le syndicalisme aujourd'hui, il doit se réinventer.
Pas se réinventer, il doit faire une update, il doit faire une mise à jour.
Une mise à jour nécessaire, c'est donc ce que dit ce militant Nicolas. Il constate ce qu'ont obtenu les gilets jaunes en un mois, une large adhésion et surtout des résultats rapides et massifs. On parle de plus de 10 milliards concédés par le gouvernement. 10 milliards concédés le 10 décembre pour un mouvement démarré mi-novembre. Oui, voilà ce qui a de quoi faire rêver les syndicats. D'autant que certaines des revendications économiques et sociales des gilets jaunes, les syndicats les portent depuis longtemps. Les retraites, le pouvoir d'achat, la justice fiscale, la redistribution. Alors les organisations aujourd'hui, est-ce qu'elles sont dégagées ou au contraire remises en selle? Comment la faire cette mise à jour? En Seine-Saint-Denis, dans la boutique occupée par des agents EDF syndiqués, on retrouve notre reporter Dila Tebi, micro tendu au numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, qui arrive là, venu en soutien. Alors, les gilets jaunes.
Premièrement, ce mouvement, on le suit de près, évidemment, depuis le début, et puis il a évolué d'ailleurs. Les revendications d'aujourd'hui ne sont pas celles du début. Mais quand je vois sur des ronds-points augmentation du SMIC, je me dis, tiens, il y a un tract de la CGT dans le coin ou quoi? Donc, on voit bien qu'il y a des convergences. Alors, pour nous, l'enjeu, c'est que ces gens-là qui ne nous voient jamais, qui travaillent pour un certain nombre, qui sont chômeurs, on a beaucoup de difficultés, des retraités, en leur dire le syndicat, c'est pas ce qu'on vous présente parfois dans certains médias. Le syndicat, ça doit être quelqu'un, des personnes qui sont avec vous au quotidien et qui font pas à votre place, qui font avec vous pour obtenir des avancées. Ben voilà, c'est comme ça. Donc le mouvement des Gilets jaunes ne nous fait pas peur, mais c'est surtout un encouragement. Par contre, si les gens considèrent que le syndicalisme, c'est pas efficace et pas utile, on a aussi à se regarder devant une glace pour être plus efficace, avoir des actions qui marquent et en même temps qui font la démonstration qu'on sert à quelque chose.
À la CFE-CGC, on tire une leçon fondamentale. Les syndicats doivent faire un bond technologique et devenir des organisations 2.0. François Omril, président du syndicat CFE-CGC.
Là où il y a peut-être un fait nouveau, qui est quelque chose qu'il faut peut-être intégrer dans notre façon de faire, dans notre façon de travailler syndicalement, c'est, on le voit bien, l'importance des réseaux sociaux, qui doit être intégrée, il faut bien le dire, c'est vrai, dans nos pratiques syndicales qui sont marquées par les traditions du passé, par les rendez-vous réguliers de négociations dans les entreprises ou au niveau des branches. Donc, il faut arriver à être beaucoup plus rapide, être beaucoup plus intégré dans nos fonctionnements et dans nos communications avec nos structures démocratiques telles qu'elles existent. Moi, je ne connais pas d'organisation plus parfaitement démocratique qu'une organisation syndicale. Et effectivement, c'est parfois un peu complexe. Ça prend un petit peu de temps d'arriver à caler la nécessité des évolutions technologiques sur nos organisations.
Quand on regarde les avancées des Gilets jaunes, alors le SMIC augmenté de la prime d'activité, la défiscalisation des heures sup, l'annulation de la CSG pour certains retraités, l'épisode Gilets jaunes a obtenu des choses. Est-ce que vous pensez que vous allez continuer d'être crédible dans les futures négociations en tant que corps intermédiaire?
Mais moi, je pense tout le contraire, c'est-à-dire que je pense que ce mouvement met en évidence, et la façon notamment dont le gouvernement y a répondu, met en évidence tout l'intérêt, toute l'importance qu'il y a au mouvement syndical d'être présent dans la politique contractuelle avec le gouvernement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement, il a répondu pour la partie la plus précarisée des revenus, pour ceux pour qui c'était vraiment devenu impossible de boucler la fin de mois. Mais le problème, il est d'ordre beaucoup plus général que ça. Je vais employer l'image d'un volcan. Aujourd'hui, le magma, il est extrêmement important sous le volcan. Il y a eu une coulée sur le côté. Le gouvernement est intervenu, mais il n'a pas réglé le problème en profondeur, qui est le problème du déclassement des salaires et des revenus aujourd'hui pour les gens qui travaillent. Et moi, je ne connais pas d'autres interlocuteurs que les interlocuteurs syndicaux pour le faire.
Et être un interlocuteur syndical, ça s'apprend. Par exemple, à l'IREF, l'Institut de formation syndicale de la CFDT. Sa directrice, Valérie Valégora, est convaincue que, en tout cas dans les entreprises, les syndicats sont irremplaçables.
Bonjour, dit la TV France Inter.
Enchantée.
Alors, qu'est-ce que vous faites ici?
Alors, on forme nos adhérents CFDT, nos élus CFDT. On accueille aussi des personnes d'autres syndicats, parce que certains aiment bien se former en intersyndical. Donc CGT, FO, CGC, un petit peu plus rarement. Et on forme combien de personnes? À peu près 3000 par an sur l'Île-de-France.
Est-ce que ici, dans cet institut de formation syndicale, il y a des répercussions concernant l'actualité, l'épisode Gilets jaunes? Est-ce que vous orientez, est-ce que vous adaptez la formation? Est-ce que vous intégrez de nouvelles choses dans vos formations?
Nous, on intervient sur la négociation en entreprise, sur les personnes qui sont élues en entreprise, ce qui n'a rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes. Dans les entreprises où sont implantés les syndicats, c'est les entreprises où il y a le moins de tensions, de conflits, et là, on arrive à faire avancer des négociations avec les employeurs. Sans le syndicalisme, ça part dans tous les sens, hein.
Alors, quel avenir pour les syndicats, sachant que les Gilets jaunes sont un choc pour des centrales déjà fragiles, comme le souligne Raymond Soubi, expert des relations sociales.
Déjà depuis pas mal d'années, les syndicats étaient sur une pente descendante. Il y a des enquêtes qui montrent très bien que leur crédibilité auprès des salariés a beaucoup baissé. Que ça tient en partie au déclin de l'industrie, au déclin du nombre d'ouvriers, qui est leur base historique, et au fait qu'ils n'ont pas réoccupé les terrains aujourd'hui de l'activité dominante, et qu'il y a d'autres formes de travail, ubérisation, etc., qui se développent, qui n'appréhendent pas. Donc les syndicats ne sont pas déjà, avant les Gilets jaunes même, dans une forme brillante. Et ajouter que les Gilets jaunes, c'est l'irruption de la cybercontestation dans la vie sociale. Ce qui veut dire que pour continuer à jouer leur rôle, il va falloir qu'ils s'adaptent, aux nouvelles générations de salariés, aux nouvelles formes d'emploi et aux nouvelles formes d'appel à la contestation.
Si vous, Raymond Soubi, vous étiez aujourd'hui aux affaires, comme à l'époque quand vous étiez conseiller social de Nicolas Sarkozy, vous vous frotteriez les mains face aux partenaires sociaux, face aux syndicats, à la veille de réformes importantes, notamment la réforme des retraites ?
Non, au contraire, je m'inquiéterais beaucoup. Et je m'inquiéterais beaucoup parce que dans une démocratie, et nous sommes dans une démocratie, on ne peut pas élaborer des réformes sans discuter avec des interlocuteurs représentatifs, que sont ou que devraient être les organisations syndicales. Et donc tout ce qui concourt à affaiblir, et c'est un peu ce qui se passe, les organisations syndicales traditionnelles, et qui n'est pas remplacé vraiment par des organisations structurées, parce que les Gilets jaunes ne sont pas structurés, est très mauvais en fait pour le dialogue social, est très mauvais pour la société française. Et l'exécutif, il a tout à fait intérêt, dans ses prochaines réformes, à jouer tout à fait le jeu de la concertation et de la négociation avec les organisations syndicales, justement pour nourrir le dialogue dans ce pays et éviter des mouvements spontanés qui, n'étant pas structurés, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a personne avec qui discuter. Et en plus, quand vous voulez sortir de la situation, vous voulez en sortir en discutant avec qui ? Il n'y a personne.
Les Gilets jaunes, un défi pour la démocratie sociale, c'était le reportage de Dilatébi.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et le secrétaire général de Force Ouvrière vient de s'asseoir dans le studio 521, il a écouté tout ce reportage. Yves Verrier, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est mortel des syndicats ?
Oh, je ne sais pas si un syndicat c'est mortel, en tout cas les syndicats existent depuis plus d'un siècle, ils ne sont pas en si mauvaise forme que cela, je ne pense pas, les élections dans la fonction publique ont eu lieu au mois de décembre, pendant la période du mouvement des Gilets jaunes. Le taux de participation, certes, pourrait être amélioré, il est de 50% à peu près, mais ça signifie qu'il y a à peu près 2 500 000 agents de la fonction publique, y compris parmi ceux-là un certain nombre d'entre eux qui sont bénéficiaires de la prime d'activité parce que des très petits salaires, eh bien 2 500 000 ont porté leur voix sur les listes des délégués syndicaux qui ont été présentés par les différents syndicats qu'on vient d'entendre, dont Force Ouvrière. Donc il y a, certes, on peut améliorer la participation, mais ça fait du monde. Si on y ajoute le secteur privé, c'est plus de 8 millions 200 000 suffrages qui se sont portés sur les listes de délégués syndicaux.
Bon, est-ce que pour autant, Yves Verrier, vous dites que la mise à jour n'est pas nécessaire ? Dans le reportage, on entend un syndiqué qui dit non, il va falloir qu'on la fasse, cette mise à jour.
La mise à jour, elle est permanente. On s'interroge de manière continue, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas du mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, on a organisé des manifestations très importantes, par exemple contre la loi travail, les plus récentes. On en avait organisé, et elles avaient mobilisé beaucoup de salariés contre la réforme des retraites en 2010.
Mais vous n'avez pas obtenu les résultats des Gilets jaunes.
Non, mais justement, c'est la question qu'on se pose, mais on a le sentiment qu'on renvoie... Si vous avez prêté attention, évidemment, à ce qui vient d'être dit, beaucoup des questions qui sont au centre des débats, qui d'ailleurs ont été mises par le président de la République, le gouvernement, au centre du débat, sont portées de longue date par les syndicats, que ce soit les questions de pouvoir d'achat, de petits salaires, de fin de mois difficiles, de retraite, de fiscalité, de services publics, d'implantation du service public.
Mais alors, que faut-il changer
Oui, mais justement, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait peut-être s'interroger sur l'autre partie. Et moi, je pense qu'il y a peut-être une difficulté pour nous, et il faut qu'on regarde comment on peut faire en sorte de se faire entendre. On avait commencé de travailler sur nos modes d'action, mais il faut peut-être aussi renvoyer à ceux qui ont la charge de l'intérêt général l'écoute qu'ils portent au dialogue social, à la négociation collective. Je pense qu'il y a une grande partie d'échecs de ceux qui n'ont pas écouté les syndicats. Le 9 octobre dernier, encore une fois...
Si les syndicats n'arrivent pas à se faire écouter, c'est de la faute de ceux qui n'écoutent pas.
Eh bien, je pense que pour partie, c'est de la faute de ceux qui n'écoutent pas. J'ajoute simplement, on vient d'écouter M. Soubi. Les derniers présidents de la République ont fait un mandat et ont échoué à se faire réélire. Je pense que ça aurait peut-être pu interroger aussi le politique sur le fait que ceux qui ont concouru à un deuxième mandat n'y sont pas parvenus. Il y a peut-être une question sociale importante.
Et en venant tout à l'heure d'ailleurs, j'ai entendu dans votre présentation de l'émission et dans la présentation que vous avez faite de moi que j'étais considéré parfois comme Macron compatible.
Question d'Éric Delvaux.
Oui, alors,
est-ce que vous êtes Macron compatible?
Eh bien, si je dois répondre à ça, je ne suis pas Macron compatible, je suis républicain, démocrate compatible, et si je devais me référer à une figure tutélaire, elle fait peut-être un peu vieux monde, mais ça serait plutôt Jean Jaurès qui disait justement qu'il ne séparait pas la République de l'idée de justice sociale.
Alors Yves Verrier, vous en avez parlé, il y a le grand débat national qui nous est annoncé, avec des thèmes comme la fiscalité et les dépenses publiques, les services publics, la transition écologique. Ça va démarrer, on nous dit mi-janvier. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Écoutez, je pense que la réponse, elle est celle d'un gouvernement face à l'ensemble des citoyens. Donc ça ne concerne pas seulement le mouvement syndical. Mais c'est vrai que les thèmes qui sont mis au centre de ce débat sont des thèmes sur lesquels, en particulier la transition écologique, la question de la fiscalité et la question des services publics, sur lesquels, depuis longtemps, nous appelons à ce qu'on fasse une pause sur les politiques qui sont conduites essentiellement par l'austérité et l'économie, et qu'on s'interroge sur quels sont nos besoins et comment on les met en œuvre et donc comment on les finance. Ça pose des problèmes de fiscalité, c'est vrai, de
oui,
redistribution des richesses.
Oui, donc c'est une bonne idée. Donc c'est une bonne idée de faire une
pause
et de s'interroger.
Ça fait longtemps qu'on porte cette nécessité de porter un vrai débat politique au sens noble du terme.
Mais alors justement, il y a un Français sur deux environ qui se dit que son avis ne sera pas pris en compte. Il y a une grande incrédulité. Est-ce que vous la partagez ?
C'est un peu une interrogation quand on entend le président de la République à la fois annoncer le débat et en même temps nous dire que les réformes continuent. Alors, est-ce que on sera entendu ou non? Par exemple, il a d'ores et déjà annoncé, au titre des trois grandes réformes pour l'année 2019, celle de l'assurance chômage. On est en train de négocier. Laissons-nous négocier, laissons les interlocuteurs sociaux négocier. Déjà que la négociation se passe dans un cadrage très restreint, très contraint
vous devez
par le gouvernement,
3 milliards.
On n'a pas beaucoup de marge de négociation. Oui, c'est très mal parti cette affaire. Et on a le sentiment qu'il y a un peu de théâtre là-dessus et que le gouvernement n'attend qu'une chose, c'est de reprendre la main là-dessus. Donc là encore, je pense que ce qui pose problème, c'est l'écoute, la place au dialogue social. Et il y a le gouvernement, mais il y a les employeurs. La question des salaires, elle pose aussi la capacité des employeurs à se mettre autour de la table, au niveau des branches en particulier. Dans les entreprises, en général, ça se passe un peu plus facilement, mais au niveau des branches, pour qu'on pose la question des salaires, et ça, cette question, on a bien l'intention de la poser, et on la posera aussi vis-à-vis de l'employeur-gouvernement concernant les fonctionnaires.
Yves Verrier, vous avez entendu les Gilets jaunes, par exemple. Ils sont tournés immédiatement vers l'État. Très peu de revendications envers les entreprises. Comme si la question des salaires, ils avaient intégré cet argument que ça n'est pas possible, ça n'est pas le sujet.
Le mouvement des Gilets jaunes est plus large que... Ce n'est pas simplement des salariés qui ont été mobilisés. Il y a des salariés, mais il y a des retraités, il y a des petits employeurs, des indépendants. C'est un mouvement plus citoyen, ce n'est pas un mouvement simplement social. Évidemment, les questions citoyennes, elles sont aussi sociales. La question sociale, je le disais en me référant à Jaurès, la République, on ne peut pas séparer l'idée de République, d'égalité, de solidarité, de fraternité, de la question sociale.
Bon, donc, de ce qui vous remonte, par exemple, la prime défiscalisée pour les employeurs qui le veulent et le peuvent, est-ce que ça concerne beaucoup de gens aujourd'hui ?
On a eu quelques mouvements, notamment chez Apple, par exemple, symboliques, à la fin de l'année, parce que Apple refusait de verser une prime dans le cadre de la prime exceptionnelle, donc défiscalisée, désocialisée, pourtant, donc qui ne lui coûte pas très cher. Donc voilà, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui se sont précipitées, entre guillemets, je le dis, parce que notre crainte était que la prime soit un acompte sur les négociations de salaire aussi. Hein. Donc, il y a des entreprises comme Total qui tout de suite ont annoncé une prime
des entreprises
un peu
riches,
généreuse.
Oui.
Et puis, les petites et les très petites entreprises, on sait très bien que ce sera beaucoup plus difficile. Et si ça se fait, le risque, c'est que cela se fasse au détriment d'une augmentation pérenne des salaires. Maintenant, tout est bon à prendre et la question de la prime, on la pose partout. Et d'ailleurs, la question qu'on a posée au gouvernement, c'est pourquoi les fonctionnaires sont exclus de l'annonce d'une prime qu'on avait annoncée de l'ordre de 1 000 euros, puisqu'on parlait du plafond de défiscalisation, désocialisation à 1 000 euros.
Est-ce que vous croyez que 2019, ça va être l'année du pouvoir d'achat ?
Ben, on va faire en sorte qu'il le soit très vite.
Vous ne croyez pas que les mesures annoncées sont suffisantes ?
Non, je ne crois pas. Les études qu'on observe confirment ce que nous ressentons en termes de pression sur le pouvoir d'achat. Que ce soit l'INSEE qui avait sorti au mois de novembre une étude sur la baisse du pouvoir d'achat des ménages depuis 2008, que ce soit l'OCDE qui fait un constat d'une baisse
en moyenne du salaire médian dans tous les pays de l'OCDE, que ce soit l'OIT qui fait le constat que le ralentissement de la hausse des salaires est plus important en France, par exemple, qu'en Allemagne. Donc il y a une vraie question sur les salaires, et je le redis, on nous oppose systématiquement l'économie, les contraintes de l'économie et l'emploi. Je pense qu'il faut qu'on mette sur la table la question des salaires comme ne pouvant pas être considérés comme ennemis de l'emploi ni de l'économie.
Yves Verrier, d'un mot, il y a eu ce décret sur le durcissement des sanctions pour les chômeurs. Pour vous, ça traduit quoi ?
Ce que je voudrais dire, c'est que à force, on va jeter l'opprobre non seulement sur les soi-disant fraudeurs, il y en a de temps en temps, les contrôles existent, mais également sur le régime lui-même de l'assurance chômage. Or, ce régime fonctionne. Il faut savoir que 60% des chômeurs indemnisés...
Qu'est-ce que ça traduit ? D'un mot, il nous reste quelques secondes, si vous voulez bien. Qu'est-ce que ça traduit ?
C'est, je pense, une volonté affichée de contrôle, de sanctions, qui démontrerait que les chômeurs sont chômeurs parce que ils ne cherchent pas vraiment du travail. Ça n'est pas vrai. Le système Pôle emploi fonctionne et les salariés indemnisés au chômage retrouvent de l'emploi.
Yves Verrier.
Quand on les accompagne.
Le secrétaire général de Force ouvrière qui nous a aussi dit que la négociation sur l'assurance chômage, c'est mal parti. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci.
Sandrine Foulon, bonjour Sandrine.
Alors, bonjour.
Ma vie au boulot, vous commencez cette année avec un mea culpa.
Eh oui, je salue la vigilance des auditrices et des auditeurs dont n'arrête pas l'écho. La semaine dernière, j'ai dit à ce micro que les fonctionnaires pouvaient bénéficier d'un mi-temps thérapeutique après 6 mois d'arrêt de travail. Eh bien ça, c'est fini, une circulaire de mai 2018 précise que les agents peuvent demander ce temps partiel dès le premier jour d'un congé maladie. Ça fait une sacrée différence et je remercie Sylvie et Myriam notamment de nous avoir écrit pour nous signaler ce changement.
Et merci aussi à Antonin, c'est la question du jour. Il veut savoir si les heures supplémentaires désocialisées et défiscalisées comptent bien pour le calcul de la retraite et des allocations chômage.
Effectivement Antonin, vous allez pouvoir dans le privé comme dans le public bénéficier dès ce mois-ci du nouveau régime d'heures supplémentaires. Elles seront exonérées de cotisations salariales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 5 000 euros par an. Ces heures seront juste soumises à la CSG et à la CRDS. Et oui, Antonin, le dispositif n'aura aucune incidence sur les droits sociaux en matière d'assurance vieillesse. L'étude d'impact réalisée pour la loi sur les mesures d'urgence économique et sociale est très claire sur ce point. C'était déjà le cas en 2007 avec le « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy. La rémunération de ces heures sup entre dans votre salaire brut qui va servir de base pour le calcul de votre pension. Pareil pour le chômage, selon l'UNEDIC, les heures supplémentaires, même désocialisées et défiscalisées, sont prises en compte pour établir un salaire de référence qui permettra ensuite de calculer une allocation chômage.
Les salariés, Sandrine, n'ont donc pas à s'inquiéter ?
Eh bien, pour les 9 millions de salariés qui ont la possibilité de faire des heures sup, cette exonération de cotisation donnera de toute façon un coup de pouce à leur pouvoir d'achat. Leur salaire net augmentera. Je rappelle aussi que les heures sup sont majorées de 25%, sauf en cas d'accord signé avec les syndicats. Depuis la loi El Khomri, il est possible de descendre jusqu'à 10% de majoration. Ce sont plutôt les caisses des régimes sociaux qui ont de quoi se faire du mouron. Au global, la mesure pourrait coûter près de 3,8 milliards aux finances publiques par an. Et pour la première fois, l'État a mis fin à un compromis historique. Cette année, il ne compensera plus à l'euro près les exonérations de cotisations. Ce sera sans doute à la sécurité sociale de combler une grosse partie de ce manque à gagner. Les chômeurs aussi risquent de faire grise mine. Même si les employeurs continuent de payer leurs cotisations patronales sur les heures sup, ils seront incités à favoriser les travailleurs en poste. En période de chômage de masse, ce n'est pas forcément une bonne idée. Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, la désocialisation des heures sup pourrait détruire 19 000 emplois d'ici 3 ans.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.